Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à tous. Et à mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle année 2019. Et pour débuter cette année, nous avons le très grand plaisir de recevoir Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université Paris 4 Sorbonne. Spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme en France à l'âge moderne, il s'est engagé pour la défense de l'urbanisme et du patrimoine et il a été élu en 2012 président de la société SPPEF, Société pour la protection de l'esthétique et du paysage en France. Il a publié plusieurs ouvrages, dont certains avaient été présentés ici même, Versailles, la fabrique d'un chef-d'œuvre, le Louvre, les Tuileries, la fabrique d'un chef-d'œuvre, toujours paru aux éditions Le Passage, et en 2017, dessiné pour bâtir le métier d'architecte au XVIIe siècle, qui a fait l'objet d'une très grande exposition présentée aux Archives nationales en 2017-2018. Pour la conférence de ce soir, je vous livre le titre « Dieu, le pape et l'architecte, une histoire de Saint-Pierre de Rome ». Il me reste, Alexandre, à vous remercier infiniment d'être ici ce soir parmi nous. Et je forme le vœu qu'il puisse revenir l'année prochaine. D'ailleurs, je l'ai déjà noté pour le 10 janvier 2020. J'espère qu'il sera d'accord. Merci. N'oubliez pas vos téléphones. Il faut qu'ils soient éteints, sinon M. Gady s'arrête.
Chère Marie-Claire, bonsoir et bonsoir à tous. Merci de ces mots chaleureux. À mon tour de vous présenter évidemment le meilleur pour cette nouvelle année. Je serai évidemment ici à même de vous dire le plaisir que j'ai de revenir, comme chaque année, rituellement à Bordeaux. La conférence n'est pas donnée qu'il y a déjà l'invitation suivante, mais ça, on connaît l'énergie de Marie-Claire. C'est un peu, au fond, plutôt un rite familial que j'accomplis plutôt qu'un devoir quelconque. Et puisque je parle de famille, elle s'est élargie, puisque certains d'entre vous ont pu voir mon épouse il y a quelques semaines ici à Bordeaux, vous parler de Charles Lebrun. Vous voyez donc, vous l'avez découvert, je ne suis que le mari de madame. Mais c'est une position qui mérite d'être méditée par sa modestie. Peu de modestie, en revanche, dans le titre que j'ai proposé pour cette conférence, « Dieu, le pape et l'architecte ». Alors, pour dire complètement la vérité et pour ne pas heurter toutes les sensibilités laïques qui peuvent se trouver dans cette salle, je vais très peu parler de Dieu, qui restera en fond d'écran, si je peux me permettre cette image informatique, puisque nous allons nous concentrer sur les hommes et sur ces hommes de pouvoir que sont les papes et les architectes, dans une combinaison qui, vous le voyez, vous le sentez déjà, peut amener de grandes choses, mais aussi peut-être aller plus loin que ce qui avait été à l'origine imaginé par les uns ou par les autres pour fabriquer la plus grande église du monde. Le record en a été battu tout récemment par une grande église construite sous le règne de Jean-Paul II en Afrique, mais enfin, on va considérer que, évidemment, à l'échelle de notre petit Occident qui se rétrécit tous les jours, ça reste la plus grande des églises, et en l'occurrence une basilique, puisque vous le savez, Saint-Pierre de Rome n'est pas la cathédrale de Rome qui est au Latran. Cette image familière, au fond, que vous avez sous les yeux, c'est l'image que l'on voit très régulièrement dans les médias, avec cette énorme église surmontée de ce dôme monumental qui a été l'objet de tout le travail du XVIe siècle, et puis tout un quartier qui va avec l'hôpital des Saxons, qui est là depuis le Moyen-Âge, la Via della Conciliazione, par laquelle je terminerai, le palais, dont on aperçoit un tout petit bâtiment sur le côté. Donc, une image familière. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette image? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire incroyable? Pourquoi ce monument a-t-il cette forme? Pourquoi est-il ici, au fond, à cet emplacement précis, sur la rive droite du Tibre à Rome? Tout ça sont des questions bien connues que je vais rebalayer en vous proposant une synthèse de cette histoire qui commence il y a très longtemps. Pour arriver à cette basilique, on passe par un pont qui était au premier plan de ma photo précédente, le pont Saint-Ange, le voilà. Et aujourd'hui, les touristes, qui sont les modernes pèlerins, comme les religieux et les religieuses du monde entier, empruntent ce pont Saint-Ange pour aller vers le Vatican, qui n'est donc pas dans le cœur de Rome, mais bien à côté de Rome, sur un autre côté du fleuve, dans un endroit qui a été longtemps complètement isolé, et même à la campagne. Si vous regardez les photographies très anciennes de Rome, vous verrez cet effet de campagne tout à fait étonnant. En réalité, ce pont n'a pas été construit pour les pèlerins, il n'a pas été construit pour aller à Saint-Pierre, il a été construit pour donner accès à un bâtiment tout à fait étonnant, qui est déjà un bâtiment pour un dieu, mais ce n'est pas le dieu des chrétiens, c'est un dieu païen, et spécifiquement païen, puisque c'est un empereur divinisé. Il s'agit du mausolée de l'empereur Hadrien, construit au IIe siècle, à l'époque de l'apogée de l'Empire romain. Un mausolée que Hadrien, le fameux Hadrien ressuscité pour nous par Marguerite Yourcenar dans son merveilleux ouvrage sur ses mémoires inventées si subtilement, que Hadrien a fait construire pour se faire enterrer, diviniser, et après lui ses descendants qui seront enterrés ici jusqu'à Caracalla, puisque le mausolée d'Auguste de l'autre côté du Tibre était déjà plein au moment de la dynastie des Antonins. On se trouve donc dans une implantation sacrée, symbolique, auprès du fleuve, en vis-à-vis du mausolée d'Auguste, le fondateur de l'Empire. Et vous voyez déjà s'installer ici un discours très politique dans cette mise en place d'un décor monumental signifiant dans le paysage de la Rome du IIe siècle après Jésus-Christ. Ce pont qui est devant vous, et que certains ont peut-être emprunté, c'est un pont romain et pas un pont moderne. Il a été construit en même temps que le mausolée et il subsiste toujours dans sa partie centrale. Ces trois arches que vous apercevez, la quatrième n'en est pas, sont bien de l'Antiquité. Et si le château Saint-Ange, comme son nom l'indique, n'est plus le tombeau d'Hadrien, mais une forteresse qui a été fabriquée pour défendre ce quartier de la rive droite, qu'on appellera bientôt le Borgo, et bientôt également défendre le Vatican et Saint-Pierre, justement, eh bien, il n'empêche que cette inscription profonde nous ramène aux origines donc, de cette Rome impériale dont les papes se prétendent, vous le savez, les successeurs légitimes. Le pape est un chef d'État à l'époque qui nous intéresse et il porte le titre très célèbre de Pontifex Maximus, le grand prêtre, le grand pontife, c'est-à-dire le chef de la religion, un des titres que portait l'empereur sous l'Antiquité. À l'ombre de ce mausolée, il y avait déjà un quartier, un petit quartier annexe, excentré, et un cirque, le cirque de Néron, qui apparaît sur mon plan dans la partie basse, avec l'épine centrale, au milieu de laquelle il y avait un obélisque monumental, vous le voyez écrit sur ce plan. Et ce que vous avez au-dessus, c'est la forme en noir de la basilique qui sera construite pour la première fois sur le lieu, et en pointillé, l'actuelle basilique, pour que vous vous situiez et que vous voyez la taille tout à fait extraordinaire de cet édifice. Le point central de ces trois documents, si j'ose dire, c'est ça, la tombe de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a été enterré, selon la tradition, après avoir été crucifié à sa demande la tête en bas, pour ne pas être crucifié comme le Christ son maître, donc une souffrance plus grande mais une mort plus rapide, sur le janicule, selon la tradition, a été enseveli dans un cimetière qui se trouvait au nord de cette cirque où les chrétiens étaient martyrisés selon des techniques très raffinées de sauvagerie que les Romains avaient développées contre cette secte, comme ils disaient. Ce cimetière a été le nœud de composition de la première basilique et il est encore au centre de la basilique actuelle et tout part de là, de cette tradition transmise oralement depuis la mort, 64-67, les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Pierre, Simon-Pierre, rebaptisé par le Christ, puisqu'il s'agit, son vrai prénom c'est Simon, c'est le frère d'André, deux pêcheurs du lac de Tibériade que le Christ appelle à lui et qui vont faire partie des disciples. Et dans cette célèbre représentation, ici c'est Raphaël de la remise des clés, vous le savez, le Christ désigne Saint-Pierre au fond comme celui des disciples qui devra construire l'Église. Le fait de l'avoir rebaptisé à partir d'une racine qui en araméen veut dire roc, c'est le pierre au sens de la pierre de construction, le célèbre jeu de mots « tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, une paronomase qui fonctionne en grec, qui fonctionne en araméen, qui fonctionne en latin et en français. Tu es Petrus et superang Petram, aedificabo, ecclesiam meam. C'est la phrase qui est gravée dans le tambour de l'église lorsqu'on rentre dans Saint-Pierre. Donc cette remise des clés, hein, les clés qui ouvrent les portes du ciel, comme le dit le Christ à Saint-Pierre, ça nous vaut la représentation habituelle de Saint-Pierre, un saint qui tient deux clés, une en or, une en argent. Elles ouvrent évidemment la partie inférieure du monde, là où nous sommes avec l'Église, et puis l'Église céleste dans le ciel avec ses clés en or. Et le voilà représenté tel que l'iconographie chrétienne va le fixer, un homme fort, grand, puissant, justement ce roc sur lequel on peut s'appuyer, un beau vieillard barbu, presque athlétique dans les représentations à partir de la Renaissance, et cette main de commandement dressée d'une manière tout à fait magnifique, même si nous le savons, ce qui est le plus beau dans la force de Pierre, c'est sa faiblesse, celui qui renie le Christ par peur, trois fois, hein, avant que le coq n'ait chanté, et le Christ, évidemment, choisit pour le représenter après lui, pour construire l'Église, un homme qui a chuté avant de se redresser, ce qui est une image évidemment tout à fait admirable de cette histoire. Lorsque Constantin, qui apparaît ici dans la célèbre tête géante du musée du Capitole, à droite ou dans une mosaïque de Ravenne comme un bâtisseur, il est représenté, vous le voyez, avec une ville entourée de murailles, lorsque l'empereur Constantin, au début du IVe siècle, va se convertir à la foi chrétienne, qui est celle de sa famille, de sa femme, de sa mère, eh bien, l'Empire devient chrétien, c'est le basculement de ce qui avait été donc une des religions dans un monde païen en religion d'État, et c'est ce qui fonde la puissance de l'Église. À partir de là, elle passe de ce statut de secte à ce statut d'Église principale, celle du prince. Il y a un prince qui a une religion, donc c'est la religion de ses sujets. Et Constantin, c'est lui le constructeur de cette fameuse basilique que vous avez vue sur mon plan, basilique sur laquelle on a des lumières faibles, mais on connaît donc son emprise au sol, et on en possède une représentation tardive de la fin du Moyen-Âge, une vue intérieure avec la façade qui a été enlevée, qui permet de voir un édifice assez monumental, en réalité, avec une grande nef, deux bas-côtés, et vous le voyez, une grande hauteur sous un plafond de bois, comme on le faisait dans les basiliques paléochrétiennes qui avaient succédé au temple. Et ici, c'est une reconstitution d'un chercheur américain qui nous donne à voir l'emprise dans le territoire de cet ancien cirque de Néron. Vous voyez l'obélisque est encore ici, il y a des ruines. Et puis on voit donc cette énorme nef, un transept fortement saillant, et le cœur ici avec la tombe de l'apôtre. Pour voir la première église Saint-Pierre, il faut aller à Saint-Paul-hors-les-Murs, il faut aller à Saint-Laurent-hors-les-Murs, il faut aller bien sûr au Latran, pour le peu qu'il soit encore visible, car le Latran a été aussi construit par Constantin. Il a donc construit la cathédrale et ce qui allait devenir la basilique sur la tombe de l'apôtre. Et au Latran, on peut encore voir des parties paléochrétiennes, même si l'église a été très, très refaite au cours des âges. Donc je vais passer vite sur ces, au fond, 1500 premières années, car cette histoire-là, elle a duré de la mort de Pierre jusqu'à une date extraordinaire dans l'histoire de l'art, qui est 1506, la décision de démolir cette vieille basilique constantinienne, usée par les siècles, par les prières, par les pas des pèlerins, par la fumée des bougies et des lampes, et ce choix incroyable, non pas de continuer la tradition, comme on le fera au Latran, en rajoutant des parties, des décors, des nouveautés, mais au contraire, de faire la tabula rasa et de passer à un édifice différent, plus grand, selon une nouvelle esthétique. Quelle modernité dans la décision, évidemment, car il n'y a rien de plus complexe dans une religion qui est fondée sur l'incarnation et sur la tradition que de rompre ce fil pour construire une autre histoire, et c'est cette décision incroyable qui est prise par le pape qui règne à ce moment-là, et dont je vais vous parler maintenant, et qui est Jules II della Rovere, qui est un personnage que vous avez sous les yeux ici représenté par Raphaël. Il a l'air un peu accablé, mais en réalité, c'est un personnage d'une immense énergie, avec un caractère assez trempé et plutôt assez difficile. C'est le neveu d'un pape qui déjà avait marqué Rome à la fin du Quattrocento, qui est Sixte IV, l'homme de la chapelle Sixtine, comme son nom le rappelle. Et il succède donc à un pape qui était intermédiaire entre les deux pour mettre en place donc, ce grand programme de restauration. Il faut imaginer que nous sommes à ce moment précis du pontificat de Jules II, dans une grande effervescence après le jubilé de 1500, après surtout un siècle, pas tout à fait un siècle, de réoccupation de Rome par la papauté, après le grand schisme, après l'affaire d'Avignon. Rome a été réinvestie par les papes, et spécialement à partir de Martin V Colonna dans les années 1520. Donc Rome, qui n'était pas la capitale de la Renaissance, hein, par rapport à Venise, par rapport à Florence surtout, va devenir pape après pape, travaux après travaux, embellissement après embellissement, la ville clé pour comprendre les transformations que l'art va subir dans cette période à la fois de faste et avec un héritage intellectuel de la génération précédente qui va porter au plus loin les arts que sont l'architecture, la peinture et la sculpture, une sorte de deuxième âge d'or après ce qui s'était produit à Florence quelques décennies auparavant. Jules II a rencontré un architecte dans cette affaire, qui est Donato Bramante. Bramante est un architecte milanais, il est venu à Rome à peu près au tournant du siècle, vers 1500. Et donc, avant même la montée sur le trône de Pierre de Jules II, en 1503, il est devenu romain, il terminera sa vie à Rome, où il est mort en 1514, et il a, comme ces Milanais qui ont connu le nord de l'Italie, une autre culture architecturale, et notamment marquée évidemment très fortement par le gothique, ce que n'est pas du tout Rome. On pense à la cathédrale de Milan, dont le chantier s'achèvera au XIXe siècle. Bramante va recevoir la leçon de Rome comme un grand choc. Hein. Il le raconte, on le sait, les premières années de Bramante à Rome, il se plonge dans l'Antiquité avec une fascination absolue. Il reste muet pour se former avec cette leçon que distribuent aux visiteurs comme à l'architecte les grands monuments, toujours visibles. Le Panthéon transformé en église, le Colisée, si on cherche bien le théâtre de Marcellus, le mausolée d'Adrien à l'intérieur du château Saint-Ange, etc., etc. Sans parler des arcs de triomphe, des restes de thermes qui passionnent ce qu'on appelle à l'époque les antiquaires. Et Bramante sera l'homme du nouveau Saint-Pierre pour Jules II. C'est donc lui qui va lancer la destruction de la basilique constantinienne. Un choc terrible, on l'appelle d'ailleurs il maestro ruinante, parce qu'il a compris, comme tous les architectes un peu malins, que le pape pourrait changer d'avis. Alors il faut se dépêcher de détruire pour que ce soit irréversible. Évidemment, c'est un bon calcul. S'il y a des architectes dans la salle, j'espère qu'ils ne me contrediront pas. Donc, le chantier commence par ces destructions monumentales de la vieille basilique qui va être complètement effacée à la réserve de quelques éléments qui seront réutilisés, je vous montrerai tout à l'heure, dans la basilique actuelle. Mais je voudrais faire un tout petit excursus avant d'entrer dans le vif du sujet pour que vous mesuriez le niveau extraordinaire de culture, comme on dirait aujourd'hui d'un mot qui n'est pas très heureux, de cette cour pontificale. L'image est un peu rouge, mais ça, c'est votre projecteur, mais le tableau est beaucoup plus beau. Il s'agit d'un portrait de Michel-Ange. Il est un peu âgé pour ma démonstration. Il vient lui aussi de venir de Florence pour s'installer à Rome. Il fera des allers-retours, mais il est venu tenter sa chance. Et il a reçu d'un cardinal français, le cardinal de Bilière, la commande d'une Pietà en marbre qui va vivement impressionner les contemporains et qui est si brillante, si stupéfiante dans son traitement du marbre, dans son rapport à l'antique, que on va l'accuser même de n'avoir pas du tout fait cette œuvre et d'avoir détourné une œuvre de quelqu'un d'autre ou une œuvre plus ancienne. C'est pourquoi il va la signer. Hein. C'est une des rares sculptures signées de Michel-Ange sur la lanière ici qui passe sur la poitrine de la Vierge. Il a précisé Michel-Ange, sculpteur florentin, pour rappeler que oui, c'est lui qui a tiré ce couple incroyable, la mère et le fils qui ont presque le même âge, dans une position de douleur et d'abandon incroyable, dans ce marbre qu'il connaît si bien, lui, le jeune homme qui arrachait aux carrières, aux flancs de Carrare, les blocs, quand il était un simple manœuvrier tailleur de pierre. Le voilà maintenant virtuose du marbre, capable de rendre le tissu, la pierre, le corps humain, la douleur enfin, comme cette extraordinaire Pietà le montre. Elle est aujourd'hui derrière une vitre blindée, ce qui vous explique ses reflets assez désagréables. Mais on a dû procéder ainsi après qu'elle a été attaquée par un vandale dans les années 70 à coups de marteau. Jules II est très impressionné par ce jeune architecte, sculpteur, qui a tous les talents, il est même peintre, et il va lui commander son tombeau, un tombeau destiné à trôner dans la basilique Saint-Pierre. L'ego de Jules II tiendrait difficilement dans cette pièce, vous l'avez compris. C'est pour ce fameux tombeau qui ne sera jamais terminé que Michel-Ange va donner le célèbre Moïse, qui est conservé aujourd'hui à Saint-Pierre-aux-Liens, sur l'Esquilin, et puis les esclaves que nous avons fini par récupérer par toutes sortes de reptations de collectionneurs divers et variés jusqu'à ce que l'État français les vole, mais on ne disait pas comme ça évidemment sous la Révolution, on disait les prélève dans les collections du maréchal de Richelieu que vous connaissez bien ici je crois. C'est le même qui va se voir chargé d'une chose qui le fascine et le terrorise à la fois, peindre la voûte de la chapelle de l'oncle Sixte IV. Qui n'avait pas de voûte peinte, c'était simplement un ciel étoilé au-dessus des cycles de la vie du Christ et de Moïse qui se répondent sur les murs et qui sont toujours en place. Voilà que Michel-Ange est obligé de monter sur cet échafaudage géant pour peindre cet extraordinaire peuple de la Bible au-dessus de cette chapelle réservée aux papes et aux cardinaux, chapelle Sixtine où il va pouvoir faire entrer cette terribilita qui le caractérise, lui qui a observé la sculpture antique, le torse du Belvédère, etc., et donné donc ces grandes scènes qui ont retrouvé leur couleur acidulée, très étonnante, après des générations de fumée noirâtre, lorsque Jean-Paul II, récemment élu, a fait faire les grands travaux de restauration et a choisi de revenir à ce que les Italiens appellent Michelangelo fluo, c'est-à-dire des couleurs très, très crues, avec des accords tout à fait étonnants de rose, de parme, de mauve que vous avez sous les yeux. Et cette célèbre création de l'homme, l'homme qui n'est qu'un extraordinaire adulte musculeux, mais avec un sexe d'enfant, parce qu'il n'est évidemment pas encore arrivé à maturité après cette création. Partout, Michel-Ange va utiliser cette sculpture antique, ses contrapostaux, ses couleurs pour donner une force extraordinaire à cette voûte qui n'est pas un poème érotique comme le croit récemment un de nos collègues américains, mais un hymne évidemment au corps nu de l'homme et de la femme qui sont les plus belles choses de la création. Il ne faut pas voir derrière chaque corps nu de la Renaissance une tentative de viol ou d'asservissement sexuel. C'est un peu court quand même comme raisonnement. Voilà, les ignudis, les sibylles, tout cela au plafond de la chapelle du pape. En revanche, pour les appartements, et ce choix sera confirmé par le successeur de Jules II en 1513, qui est Léon X, Giovanni de Medici, un pape Médicis, il y en aura plusieurs dans le siècle, le dernier est avec Pie IV. Le voilà, lui, confirmant cette commande pour les appartements du pontife dans le palais du Vatican. C'est le jeune Raphaël qui va être chargé de ces décors. On voit ce très beau portrait ici du peintre avec le pape et deux de ses cardinaux. Il lit un livre enluminé, évidemment, c'est un érudit. Il a été élevé à la cour splendide des Médicis de Florence et il est tout à fait, comme Jules II, un des humanistes les plus importants de cette période. Voilà le célèbre autoportrait des offices et lui, il est là exactement à l'âge où il reçoit cette commande incroyable. Commande qui va amener la création des stands et les fameuses chambres du Vatican qu'on visite aujourd'hui à peu près dans les mêmes conditions qu'on prend le RER à Châtelet à 18h30 le soir, c'est-à-dire en conditions de survie très difficiles, mais ici photographiées à vide, évidemment, avec ces grands décors, les murs étant couverts de lunettes qui reçoivent la voûte que vous apercevez. Elles ont permis aux peintres de déployer ces décors où l'architecture joue un rôle très important, la célèbre dispute évidemment, avec une architecture à l'antique, regardez, projetée sur le mur, avec ces grandes arcades à caissons, ces grands murs avec des pilastres articulés à des niches avec des statues. On voit bien ici la culture antiquaire qui n'est pas seulement celle de Raphaël, mais bien sûr celle de Bramante. On peut voir au fond dans cette peinture la basilique telle qu'elle devait être si Bramante avait pu la construire complètement. On voit aussi dans la célèbre scène de Héliodore chassé du temple avec le pape sur la seda gestatoria juste derrière, vous le voyez, porté par d'ailleurs Raphaël et ses acolytes, dans une attitude de, vous voyez, où le simple regard du pape suffit à faire chasser évidemment par l'intervention divine Héliodore. On voit encore une architecture somptueuse de chapelles à coupoles successives qui marque évidemment la culture antiquaire complètement renouvelée de cette génération qui a décidé de restaurer Rome dans sa grandeur. C'est ce même pape qui, dans cette même position, avait accueilli les Français pendant les guerres d'Italie par ce mot célèbre « Fuori barbari, dehors les barbares ». Et l'incendie du Borgo, avec ses corps athlétiques, cette colonnade brisée à l'antique, et puis ici, une des premières citations de cette baie qu'on appelle une serlienne, et qui aura un succès très important dans l'architecture occidentale, spécialement avec Palladio. Le même Raphaël donnera pour ce palais, avec Bramante, toujours ensemble, ces fameux décors des loges, qui sont des décors de grotesques dans ces passages qui étaient jadis ouverts sur la cour Saint-Damase et qui sont aujourd'hui vitrés pour des raisons de protection et de froid aussi. Le pape Pie IX a fait vitrer la cour complètement. Mais puisque j'en suis au palais, je ne voudrais pas ne pas rappeler que Bramante reçoit en fait une double commande, reconstruire la basilique pour Saint-Pierre et reconstruire, ou plutôt agrandir par de nouvelles constructions, soyons précis, le vieux palais du Vatican, très irrégulier, qui est ici et qui est articulé à une base médiévale. Sur ce document, vous voyez ici que l'emprise générale des bâtiments anciens est doublée par des nouveaux bâtiments avec des plans beaucoup plus réguliers, beaucoup plus modernes. Et c'est tout le travail qu'on va confier à Bramante pour relier en réalité le palais qui est au premier plan à un espace qui se trouve tout à fait au fond, au-dessus du niveau, avec une vraie, un vrai changement de sol, si vous voulez, parce qu'il y a une sorte de butte au fond du jardin du Vatican, qu'on appelle le Belvédère, parce que comme son nom l'indique, il y a une très belle vue, c'est la villa du Belvédère, qui date du pape Innocent VIII. Et donc, il y a une attraction entre le vieux palais modernisé, avec ses chambres de Raphaël, et la villa du Belvédère tout au fond. Et c'est pourquoi Bramante va imaginer ce jeu de cours successifs avec ses escaliers et ses terrasses, qui aboutissent, là sur ce tableau, vous voyez donc le vieux Vatican, la villa du Belvédère qui donnait une vue sur Rome tout à fait incroyable, et ces grandes ailes qui sont donc les cours du Belvédère, qui ne sont que partiellement accessibles au public aujourd'hui, et dans lesquelles est un jardin de sculptures. Vous les voyez, regardez, les sculptures, elles sont là, à l'air libre à ce moment-là. Elles seront installées dans des niches par le pape Pie VI à la fin du XVIIIe siècle, dans le musée Pio Clementino, et c'est là qu'on trouve l'Apollon du Belvédère, le Laocoon, trouvé en 1506, dans un champ, déterré et offert au pape. 1506, on trouve le groupe le plus célèbre de la sculpture antique intact ou presque, et on l'offre au Vatican. Et c'est ce qui, aujourd'hui, photographié du haut de la du dôme, vous donne, vous voyez, ces deux bras qui accueillent pour toute cette partie-là le musée du Vatican. Ici sont des parties fermées au public, la bibliothèque et au fond le Nicione avec l'entrée actuelle du musée et la Pinacothèque. Voilà la cour Saint-Damase de Bramante et Raphaël avec ses arcades fermées où il y avait donc ces fameuses grotesques des loges. Et j'en reviens à mon propos après cette petite digression, mais qui me paraissait indispensable pour vous mettre un peu dans cette ambiance d'émulation entre chacun de ces artistes, Raphaël, Bramante, Michel-Ange. On parle, on se mesure, on se compare, et le pape joue de cette rivalité pour pousser tout le monde vers le haut. Alors on possède un très beau document avec ce lavis rouge tout à fait étonnant sur un plan dit de parchemin. C'est le plan de Saint-Pierre dans ce qui semble être le premier projet de Bramante. Il a fait couler beaucoup d'encre, si j'ose dire, ce document, parce que vous le voyez, il est mi-parti, donc il n'y a que la moitié, et évidemment la tentation a été de penser qu'il représente le plan qu'il suffit de multiplier de l'autre côté pour avoir le résultat d'ensemble. Lorsqu'on fait un plan qui est très coûteux en temps, je vous avais expliqué l'année dernière ces problèmes du dessin d'architecture, si le bâtiment est un plan carré, ben on peut dessiner que la moitié, et le commanditaire est capable de projeter l'autre moitié. Donc les historiens d'art, qui sont incorrigibles, vous le savez, et qui adorent faire des dessins eux aussi, ont proposé ça, c'est-à-dire un bâtiment carré, un énorme carré, avec quatre absides, puisque sur le plan, on en voit trois. Une ici, une ici, une ici. Problème, évidemment, quatre absides, ça veut dire que la façade d'entrée est elle-même dans une abside, c'est un peu curieux, et au fond, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas très bien où est la vraie entrée, puisque maintenant, les quatre façades ont l'air d'être complètement identiques. Chose rarissime dans l'architecture occidentale. Et vous voyez sur ce document que la tombe de Pierre est toujours le point de composition et que l'ancienne basilique était un peu plus longue ici et un peu plus courte ici. Donc on voit que le monument a glissé sur le terrain pour aller un peu plus vers l'ouest et retraité sur l'espace ici, le palais étant toujours sur le côté. On a même fait des très très belles axonométries, donc qui sont façon de dessiner en plan et en perspective ici écorchée, qui vous donnent l'emplacement, vous le voyez, la tombe de Jules II, la tombe de l'apôtre, sous le dôme monumental. Et on aperçoit ici un clocher, car on y reviendra, c'est une question assez compliquée. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du clocher ? Un héritage de l'architecture médiévale, très nécessaire dans l'architecture chrétienne, alors que le modèle de l'architecture antique, qui ne cesse d'être sollicité, n'a pas de clocher, évidemment. Cependant, nous savons, c'est vrai que Saint-Pierre a pu très bien être imaginé comme un édifice de plan centré, parce que le plan centré, avec un point de centre, dans un carré, dans un cercle, dans un octogone, dans un hexagone éventuellement, c'est un plan qui fascine tous les architectes et tous ceux qui travaillent sur le rapprochement entre la perfection de la mathématique et la perfection de l'image, de la perfection divine. Et dans les carnets de Léonard, qui sont ceux de l'Institut, on va beaucoup parler de Léonard cette année puisque c'est le 500e anniversaire de sa mort et il faut craindre que nous soyons un peu saoulés de léonarderie, mais enfin bon, je ne vais pas m'économiser quand même là-dessus, cette belle image. Vous voyez que Léonard, lui aussi, le Milanais, hein, a fait, enfin, il est florentin, mais il travaillait à Milan, lui aussi a réfléchi à cette question du plan centré. Hein. Réfléchir à une église dont au centre du carré ou de l'octogone sort cet dispositif, ce dispositif qui est le dôme posé sur un haut mur qu'on appelle un tambour et dont Florence, avec Brunelleschi, a donné le signal dans les cieux de l'Italie du Quattrocento. Et le même Bramante, au moment où il a cette commande, réalise son immortel chef-d'œuvre, le Tempietto de Bramante, qui se trouve sur le Janicule, dans un couvent espagnol, San Pietro in Montorio, et qui est considéré, lui, comme étant construit à l'emplacement où Saint-Pierre a été crucifié, la tête en bas, avant d'être enterré dans le cirque de Néron. Là, dans les deux cas, il faut avoir évidemment foi en la tradition. Et ici, on vous montre l'endroit dans le sable où la croix a été plantée. Et là, ça sollicite vraiment très fortement la foi, évidemment. En revanche, ce qui est devant nous comme une évidence solaire, c'est l'extraordinaire génie de Bramante et sa capacité, après son arrivée à Rome, d'intégrer la leçon antique, puisque ce qu'il a ressuscité ici, dans ce monument parfait, d'un plan circulaire centré, c'est la tholos des Grecs, le temple des morts, entouré d'une colonnade, à laquelle il a joint ce dispositif du dôme sur son tambour, dans un mélange entre le modèle antique, le temple à colonnade périptère que vous avez en bas, dont il y avait des modèles encore à Rome, comme le temple de Vesta, et au contraire, ce dispositif plus moderne qui combine deux éléments et va faire considérer aux contemporains qu'il s'agit d'un édifice majeur, presque à l'égal des grands monuments de l'Antiquité. Voilà la stature que Bramante a acquise grâce à son génie. Et dans ces mêmes années, contemporaines exactement de la réflexion de Bramante pour Saint-Pierre, le paysage monumental de Rome et de ses environs se couvre d'édifices de plan centré. La petite église Notre-Dame de Lorette, un carré surmonté d'un octogone, surmonté d'un dôme, en 1507, San Gallo, avec une photo de photographe, pardon, la coupole à l'intérieur. Le même Raphaël va réaliser pour le banquier du pape Agostino Chigi, qui est un des amis du pape et qui est celui qui a construit la Villa Farnésine à Rome, une chapelle pour sa famille, où il sera enterré. Regardez, un plan centré, un carré parfait, dont les angles sont rabattus pour faire un octogone, avec le cercle qui correspond à l'image de la coupole, coupole caissonnée avec Dieu le Père tout en haut, 8 divisions qui correspondent à cette structure stuquée et dorée. Et pour passer du carré au cercle, comme le montre très bien la photographie, il faut des éléments qui sont ici, qu'on appelle des pendentifs, avec 4 personnages qui sont les 4 évangélistes. Ça, c'est la grande leçon du plan centré. Puisque le carré est l'imperfection et le cercle est la perfection, le carré, c'est nous, c'est l'homme sur terre, le cercle, c'est Dieu. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut les évangiles. Donc les 4 évangélistes sont mathématiquement placés à la transition qui est de la géométrie dans l'espace, du carré et du cercle. Dans ces pendentifs qui sont à la fois des triangles et des triangles concaves, pour gérer cette différence entre le carré et le cercle. Voilà une des grandes images de cette pensée religieuse, la manière dont on circule entre carré et cercle, terre et ciel, grâce aux évangélistes. Incroyable, à Todi, posé sur le rebord du plateau avant que la ville ne voit une grande faille dans la campagne toscane, Sainte Marie de la Consolation à Todi, 1508, un édifice ici photographié en hauteur, dont on peut se demander où est la porte d'entrée et la façade, puisque là aussi, quatre façades identiques, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, avec le résultat à l'intérieur, toujours cette coupole sur ses pendentifs. Et puis, bien sûr, peut-être la plus célèbre de ces objets architecturaux fascinants, San Biagio à Montepulciano. Montepulciano, que vous connaissez peut-être pour une autre raison, c'est qu'il y a un vin rouge qui est pas mal, même si à Bordeaux, c'est toujours difficile de dire une chose comme ça. Mais la ville la plus au sud de la Toscane, avec cette église qui est à l'extérieur de la ville, à l'endroit où il y a une image miraculeuse de la Vierge, et qui est aussi un édifice tout à fait fascinant, avec ce plan en croix grecque, au centre un carré, sur ce carré, le tambour circulaire et le dôme. Et voilà l'intérieur qui n'est pas peint, mais uniquement minéral, ce qui est assez rare dans l'esthétique italienne qui préfère la couleur. Et on se croirait ici presque dans un édifice français. Vous savez, les Français privilégient la pierre apparente dans les églises selon la tradition romane. En réalité, il semble aujourd'hui d'accord que le pape a rejeté ce plan centré parce que le plan centré a quand même un défaut. C'est que ce n'est pas assez grand pour accueillir beaucoup de gens quand on entre dans l'église, et c'est une église importante puisqu'on vient se recueillir sur la tombe de l'apôtre, donc ce n'est pas possible, évidemment. Donc on va commencer de réfléchir à un édifice qui est allongé par une nef. On garde le plan centré, regardez, on le devine ici, hein, le carré fondateur, mais il commence à s'allonger ici avec une nef, ce qu'on voit très bien aussi sur ce document. Et cette nef, avec la façade droite, eh bien, elle revient au fameux plan traditionnel de l'époque médiévale, qui est le plan dit en croix latine. La nef représente le bois de la croix, le transept, le bois transversal, et le cœur, l'endroit où le Christ a posé sa tête. Donc, une image assez évidente. Mais surtout, pour le clergé, qui est quand même à la manœuvre, plus facile, puisqu'on peut accueillir beaucoup de monde dans la nef et gérer ainsi les flux, comme on dirait aujourd'hui. Alors, on possède la médaille attribuée à Cardoso de ce projet. Voilà donc, a priori, ce que Bramante a réussi à dessiner pour le pape. On voit la façade qui est traitée avec un petit tempietto, qui est un hommage que Bramante rend à cette architecture qu'il venait de montrer magnifiquement au tempietto. Deux clochers, et je vous demande de les noter, parce que c'est une question évidemment qui va nous poursuivre jusqu'au XVIIe siècle. Où sont les clochers de Saint-Pierre? Il n'y a pas de clocher. C'est une église sans clocher. La plus grande église de la chrétienté n'a pas de clocher. Et puis, un énorme dôme sur un tambour dont le caractère architectural, vous le voyez, est une colonnade qui, elle aussi, est périptère, qui fait le tour, comme on venait de le voir. Et au fond, c'est une sorte de tholos posé sur l'édifice. On en possède d'ailleurs des gravures qui sont postérieures, hein, mais qui ont été présentées par ceux qui les ont réalisées et qui étaient eux-mêmes architectes à Saint-Pierre, comme des documents tirés, des papiers qui existaient encore à ce moment-là, de la transmission, de la mémoire de ce fameux projet de Bramante qui n'aura pas lieu finalement. Donc ça donnerait plutôt quelque chose comme ça, les deux clochers avec la façade, la nef et le reste du carré parfait. Et vous découvrez donc que le plan que nous avons vu tout à l'heure serait en fait cette moitié-là. Et à ce moment-là, c'est très cohérent. Et nous avons ici l'élévation avec les chapelles couvertes chacune d'un dôme, le grand dôme principal, les dômes arrière. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'édifice que vous connaissez. Ça a à voir de très loin ou, si on est myope comme moi, en enlevant ses lunettes. Voilà. À la mort de Bramante, c'est Raphaël qui se voit confier le chantier. Et puis ensuite, à la mort de Raphaël en 1520, plusieurs architectes, jusqu'à ce que Sangallo le Jeune, celui qu'on a vu tout à l'heure à Lorette, celui qui a construit le palais Farnèse, notre ambassade près le Quirinal, eh bien, devienne l'architecte officiel de la fabrique de Saint-Pierre. Et, vous le savez, fasse réaliser des maquettes extraordinaires qui sont toujours conservés. Les Italiens ne sont pas comme les Français un peuple de Vandales, donc tout ça a été bien conservé. Vous savez qu'il ne reste pas une maquette française en bois pour le XVIe et le XVIIe siècle, alors qu'ici, elles sont très abondantes. Il faut les visiter dans le musée de l'œuvre Saint-Pierre, hein, c'est sur la gauche de la basilique, près de la sacristie. Et ce sont des maquettes, vous voyez, qui tiennent dans une pièce qui a été faite quasiment pour elles, puisque si j'avais pu photographier avec quelqu'un, la tête d'un être humain constitué à peu près normalement, 1m70, arriverait ici, hein. Donc c'est une maquette qui tiendrait tranquillement sur cette scène, voilà. Et peut-être certains ont eu la chance de les voir lorsqu'elles sont venues à Paris dans une grande exposition au palais du Trocadéro, avant qu'il ferme, avant l'incendie accidentel, etc. Et il y avait une exposition sur les maquettes de la Renaissance et ils avaient fait venir, le Vatican avait accepté de prêter cet extraordinaire objet qui s'ouvre, hein, pour que le pape puisse mettre la tête à l'intérieur pour voir ce que ça donne en termes de volume. C'est une sorte de 3D de l'époque, en fait, hein. C'est fait pour que le client puisse voir ce que donnera le bâtiment. Et vous voyez que Sangallo a déréglé le projet de... Mais on retrouve le carré d'origine avec le dôme qui a changé de silhouette et les deux clochers, mais détachés. Il faut passer, regarder, de la partie de la façade à l'intérieur par ce système qui est à la place de la nef, mais couverte, qu'avait imaginé sans doute Bramante. Et ce projet a été gravé. Donc là, on le connaît et on voit comment on est dans une autre esthétique avec ces clochers qui ont poussé en hauteur. Il y a quelque chose de presque asiatique, assez fascinant dans cette gravure de Sangallo qui n'aura pas lieu non plus, comme vous le comprenez bien sûr. La gravure nous sert beaucoup à cette époque et on voit ici une des choses les plus extraordinaires et c'est une énorme planche gravée, donc coûteuse à réaliser, qui est là, ici, pour nous montrer les cintres qui ont été nécessaires aux charpentiers de la fabrique pour préparer la réalisation des voûtes géantes qui ont été mises en place pour les travaux de Saint-Pierre, car l'échelle de Saint-Pierre est une échelle monumentale incroyable. Et donc, pour cette raison, c'est d'abord aussi une question technique. C'est aussi, avant d'être une question esthétique, c'est une question technique, comme l'avait été la résolution technique de la construction du dôme de Florence par Brunelleschi, qui a d'abord répondu techniquement à une commande que personne d'autre n'arrivait à gérer. Le chantier s'avance, le successeur de Léon X est un de ses parents, le cardinal Giulio de Medici, qui devient Clément VII, voilà son portrait par Sebastiano del Piombo, et en 1527, la date célèbre, le sac de Rome, tout s'arrête, les lansquenets de Charles Quint et du connétable de Bourbon descendent dans la ville de l'Antéchrist, comme on l'appelle, c'est la réforme protestante. Maintenant, le pape est un ennemi, ils sont venus pour le pendre avec une corde en or, mais, ça ne fonctionne pas. Il va se sauver et il va se cacher dans le château Saint-Ange en courant, comme dans un film hollywoodien, à quelques instants près, sur le fameux mur qui relie le Vatican, un mur fortifié du Moyen-Âge, au château Saint-Ange, et il s'enferme dans Saint-Ange, où il restera 6 mois avant de s'échapper discrètement déguisé la nuit à Orvieto. Charles Quint n'a pas réussi à tuer l'Antéchrist, mais je ferai ici quand même, évidemment, le rappel que cette histoire de Saint-Pierre, qui a nécessité des financements énormes, et donc quelques abus, ont amené aussi la réforme. La réforme, elle est née aussi de la critique de Luther contre tout le système financier mis en place par l'Église pour ramasser le plus d'argent possible pour ce fameux chantier de Saint-Pierre qui dévorait les finances de l'Église. Et Luther, vous vous souvenez sans doute, dans ses critiques très violentes, va jusqu'à dire, au fond, à part les cardinaux romains, qui peut croire que Saint-Pierre soit vraiment enterré là ? Même ça, il le met en doute en disant que tout ça, c'est de l'argent jeté complètement. Alors, les gravures qui suivent, elles montrent au fond la réalité du chantier de Saint-Pierre, de cet orgueilleux chantier de Saint-Pierre, c'est un cadavre d'architecture inachevé. Regardez, il reste un morceau de la basilique constantinienne. Là, il y a un obélisque, on en reparlera. Et puis, regardez, l'énorme croisée du transept prévue pour supporter le dôme, eh bien, se dresse dans le vide comme une espèce de chantier abandonné. Et on possède toute une séquence de dessins de Martin van Heemskerk, qui est un nordique qui est venu à Rome et qui va faire des vues, comme on ferait aujourd'hui avec nos petits appareils, de toutes les coutures du chantier qu'il fascine. Vous imaginez, on voit qu'il y a un peu plus que sur la gravure que je viens de vous montrer, mais on voit, regardez, l'ancien édifice brisé, l'obélisque qui n'est pas du tout visible en réalité, et toujours cette énorme carcasse avec ses murs extérieurs inachevés, il y a encore les trous de boulins de l'échafaudage, il n'y a pas de toiture, on a simplement couvert les maçonneries. Et je fais défiler ces vues qui sont toutes plus belles les unes que les autres. On dirait une ruine,
mais c'est un chantier inachevé. Regardez la beauté de ces grandes arches et vous reconnaissez ces voûtes à caissons que vous avez vues dans la peinture de la dispute tout à l'heure, dans les chambres de Raphaël. Voilà, le mur d'enveloppe inachevé avec ses grands pilastres, ces tas de pierres abandonnés sur le chantier par les ouvriers qui ont fui. 1527, c'est une date fondamentale dans l'histoire de Rome. Tous les artistes s'en vont, sont persécutés ou arrivent à partir. Il y a une déperdition de toute la culture extraordinaire accumulée à la cour pontificale. À l'intérieur, regardez, il reste les morceaux de la basilique constantinienne avec les fils de colonnes paléochrétiennes, les hauts murs qui étaient décorés de mosaïques, et puis au fond, le décor inachevé de Bramante, avec cette partie qu'on a construite pour protéger le tombeau de l'apôtre. Regardez, celui-là est particulièrement touchant parce qu'on voit très bien les grands caissons à l'antique ressuscités du Panthéon, et puis regardez ces énormes pilastres qui s'arrêtent net avec ces personnages qui donnent l'échelle de cette fantastique aventure qui a l'air de s'être brisée. On a cassé Constantin, mais on n'a pas réussi à remplacer par un édifice. Voilà, ça c'est, pardon, la vue était inversée, c'est la vue du mur qui a permis de courir à l'abri des tirs pour que Clément VII se cache dans le château. Celui qui va relever le défi de la reprise du chantier, c'est lui, Paul III Farnèse, Alexandre Farnèse, le cardinal. Alors, ce n'est pas du mauvais esprit de ma part, mais il pose avec ses deux petits-fils qui sont aussi des princes de l'Église, enfin, pour l'un, le grand Alexandre. Il a eu, avant d'entrer plus avant dans la carrière religieuse, il a eu deux enfants, voilà. Et un enfant, pardon, et donc, voilà, c'est la suite de la famille, mais ils sont en famille, mais ce tableau de Titien est merveilleux. Je l'aime beaucoup à cause de l'air de vieux Grigou du pape. Vous avez compris que Paul III, c'est un malin, et il va reprendre, avec beaucoup de courage, tout ce qui a été arrêté. Au fond, c'est un des papes majeurs de l'histoire de Rome. Vous le savez, c'est lui qui va déplacer la statue de Marc Aurèle qu'on prenait pour Constantin et l'installer au centre du Capitole, là où Michel-Ange va l'installer sur la place actuelle. Paul III Farnèse, c'est un malin, mais c'est aussi un homme qui se recommande à notre admiration pour avoir condamné une fois définitivement pour toutes l'esclavage dans une bulle très célèbre au milieu du siècle. Il est interdit à un chrétien de vendre un homme. Je le rappelle parce que dans cette ville, il y a évidemment une mémoire douloureuse de cette question. Eh bien, quand on a un peu honte de ce qu'on a fait, on peut relire le texte magnifique de Paul III, qui est un des textes les plus beaux contre l'esclavage, mais très peu connu. Alors, il va appeler Michel-Ange. On attend très poliment, naturellement, que Sangallo meure. On ne va pas prendre la place de Sangallo, mais Michel-Ange est rappelé. Et il est d'abord rappelé pour peindre un des murs de la Sixtine. Le revoilà dans cet espace, et après avoir peint la voûte au début du siècle, dans les années 30, il va réaliser le fameux mur du jugement dernier, où les corps sont encore une fois complètement nus, ou presque, torturés. Cette fois-ci, on est passé à une autre étape de cette génération qui a vu l'excellence de Bramante, de Raphaël, du jeune Michel-Ange, qui a connu le sac, qui a connu l'échec, et qui maintenant s'en va vers un art plus tourmenté, où les corps s'allongent, se déforment, comme une espèce de critique stridulante de cette humanité qui a quand même chuté à ce moment-là. Et dans cette fresque du jugement dernier, une grande partie des corps, y compris du Christ, étaient nus, ce que feront cacher les papes après pour des raisons de décence. Le fameux élève Daniel et da Volterra, qu'on appelait il Braghettone, va réaliser un certain nombre de cache-sexes dans cette chapelle. Une partie de ces cache-sexes ont été enlevées à la demande des restaurateurs sur autorisation expresse de Jean-Paul II au moment des travaux, parce que au fur et à mesure des travaux de nettoyage, les peintres découvraient des choses de plus en plus étonnantes, et notamment ici, il y a un des cardinaux qui était le grand ennemi de Michel-Ange, et il est entouré par un serpent emmené dans l'enfer, et le serpent s'enroule autour de lui, mais la tête se perdait dans un feuillage de pudeur. En fait, le serpent lui croque ce que ma maman m'interdit de nommer en public, et donc ça a été dégagé après avoir fait rire Jean-Paul II aux éclats sur l'échafaudage. Mais comment reprendre un tel chantier? Et c'est la question qui est posée à Michel-Ange. Voilà une gravure qui vous montre une sorte de photographie de cet état tout à fait inabouti au moment où meurt Sangallo et où Michel-Ange se voit confier ce chantier. Michel-Ange a toujours eu, comme sans doute cette génération que je viens de décrire, une passion pour le plan centré, comme le montre cette gravure d'une maquette qu'il avait réalisée pour une autre église de Rome, Saint-Jean des Florentins, C'est l'église des Toscans de Rome, donc il était concerné au premier chef. Et cette merveilleuse gravure de Le Mercier où l'architecture en bois est posée sur son tréteau de chantier, regardez, c'est un document assez exceptionnel, nous montre qu'il avait prévu pour cette paroisse un plan centré qui a naturellement été refusé par le clergé. Mais on voit que cette idée l'intéresse et donc il fait cette proposition au pape. Un plan centré pour Saint-Pierre, c'est quand même ce qui serait le mieux. Et Paul III accepte de revenir au fond à la première idée de Bramante. Regardez le carré monumental, les trois absides, mais simplement ici, il y a une proposition différente pour la façade. Regardez, le plan montre des cercles noirs. Il propose, pour la première fois, et malheureusement je n'ai pas la gravure parce qu'elle n'a jamais été faite, une façade avec des colonnes comme un temple antique. On le voit très bien sur la vue ici latérale. Regardez ces colonnes, elles auraient été en façade sous un grand fronton et ça aurait donné un caractère complètement incroyable à l'architecture. Et il propose surtout de changer les élévations extérieures par des grands pilastres corinthiens, là où il y avait cet ordre dorique, c'est ce qui sera fait, avec un attique par-dessus. Et il change complètement le profil de ce dôme sur tambour qui, vous voyez maintenant, est articulé par des piliers avec des colonnes, mais plus par une colonnade, et il donne une forme ovoïde au dôme qui va en faire un des objets architecturaux les plus célèbres de la Renaissance. On a une coupe longitudinale qui montre l'intérieur et qui nous permet de connaître parfaitement, à la réserve de la façade, ce projet de Michel-Ange. Vous voyez ici le détail très précis des structures avec les passages pour les travaux et aussi le passage entre la coque et la peau extérieure qui permet de placer les escaliers qui montent dans le lanternon sommital. Donc un projet relativement bien connu grâce aux gravures qui sont faites après la mort de Michel-Ange, mais en réalité, quelques dessins du maître, avec, on voit beaucoup d'hésitation même sur la forme générale, des très beaux dessins conservés à Harlem et à Lille, et puis finalement, Michel-Ange, lui aussi, échoue. Il ne peut construire qu'une partie, vous le voyez, de ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire qu'il manque quand même la partie la plus difficile à faire, le dôme. Le mur principal du tambour, ce n'est pas trop compliqué, c'est un mur vertical en tas de charges, mais après, ça sera plus compliqué, on voit qu'il y a un échafaudage ici. Et au-devant, regardez, il règne un grand bazar, on a caché la façade par une loge des bénédictions qui adopte l'écriture de l'architecture romaine à arcades superposées, donc ça vient du Colisée. On voit la cour Saint-Damase ici, le palais du Pape. Ça, c'est la chapelle Sixtine, ce volume ici. Mais on voit bien qu'on est loin du compte. Celui qui a fini Saint-Pierre, c'est lui. C'est un personnage, lui aussi, avec un caractère terrible. C'est Sixte Quint. Sixte Quint, dont vous avez les armes ici. Et le portrait, peu flatteur, mais c'est un grand bâtisseur que ce Sixte Quint. Et il va rencontrer un architecte, lui aussi beaucoup moins connu. Ce n'est pas Bramante, ce n'est pas Michel-Ange, c'est Domenico Fontana. Et Domenico Fontana, sur ce très beau portrait de Zuccari, où, regardez, il se désigne, il s'auto-désigne avec le compas. Io sono architetto, c'est ça qu'il nous dit, je suis architecte. Eh bien, il est chargé des grands travaux de Saint-Pierre et de tous les grands chantiers que le pape va lancer dans Rome, notamment au Latran, où le palais est reconstruit à ce moment-là. Ce qui a rendu immortel Fontana, ce n'est pas tellement d'avoir achevé Saint-Pierre, au fond, c'est d'avoir redressé l'obélisque brisé et couché du cirque de Néron, qu'on avait toujours là à côté. Mais entre un obélisque qui est par terre et un obélisque redressé, il y a une toute petite phase technique un tout petit peu difficile. Et tant qu'on n'a pas inventé les machines que nous possédons, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est le même travail que les Égyptiens, à la main, avec des cordes, avec des animaux. Et c'est l'érection qui est représentée dans cette peinture de l'obélisque du cirque de Néron, c'est-à-dire d'un témoin oculaire, si j'ose dire, de l'enterrement de Saint-Pierre, qui est dressé avec Fontana devient monsieur obélisque. Il en a redressé trois dans Rome, celui de la place du peuple, celui du Latran, et il redresse celui de Saint-Pierre avec cette pente exactement selon les modèles que utilisaient les Égyptiens. Tous ces cabestans qui sont destinés à tirer la pierre monolithique vers le haut, et l'obélisque se dresse au centre de la place. Un obélisque qui est christianisé ici par les armes du pape et la croix du Christ. Donc, bien sûr, un élément antique réutilisé. Il ne s'agit pas d'un obélisque égyptien, puisque vous le voyez, il n'a pas de hiéroglyphe sur ses faces. Alors, c'est les ingénieurs autour de Fontana qui vont terminer cet extraordinaire monument qu'est le dôme de Saint-Pierre, avec cette coupole qui va prendre tout l'espace symbolique de la ville. Voilà la maquette en bois qui a été fabriquée et qu'on a beaucoup retouchée au XVIIIe siècle lorsqu'on a restauré ce dôme qui menaçait, non pas ruine, mais qui avait donné des signes de faiblesse. Il y a eu une restauration très habile. Et voilà, je vous l'avais dit, ça s'ouvre et on peut voir l'intérieur du projet de Michel-Ange achevé par Fontana. On a une chronique très précise. Tous les documents ont été découverts par nos collègues italiens. Pour certains d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. On sait jour après jour ce qui s'est passé pour arriver à dresser dans l'espace vide du tambour cette gigantesque coupole dont vous apercevez ici le décor. Et voilà, on a achevé Saint-Pierre en 1589-1590. Moins d'un siècle après le début du chantier, on a à peu près réussi à faire le chœur et le transept couverts de ce dôme. Et vous reconnaissez aussi les petits dômes qui accompagnent le grand qu'on a vu sur la gravure. Michel-Ange aurait voulu en mettre quatre, il n'en a finalement fait que deux. Deux qui sont ceux vers la façade. Et à l'intérieur, vous reconnaissez, mais couvert de peinture et de mosaïque, le découpage qu'on a vu sur la maquette en bois, avec les fenêtres, l'ordre et puis les nervures qui remplissent la coupole. Mais alors vous allez me dire, il n'y a pas de façade dans cette affaire, on est toujours coincé. Et l'homme qui a achevé Saint-Pierre, ou les hommes, c'est un nouveau couple de ces maîtres d'ouvrage et de ces maîtres d'œuvre. C'est Paul V Borghese, ici son tombeau à Sainte-Marie-Majeure, et Carlo Maderno, un architecte venu de la Suisse, du Tessin, et qui va s'installer et devenir l'architecte principal du règne de Paul V Borghese. Lui, avec l'accord du pape, propose de revenir à la nef devant l'église, parce que ce n'est pas possible quand même, même avec le respect qu'on doit à Bramante et à Michel-Ange, d'avoir un plan centré. Et donc, regardez, on allonge le programme imaginé par Michel-Ange et la façade est donc plus à l'est vers l'obélisque qui a été dressé. C'est la façade que vous connaissez, sur laquelle il a retourné l'élévation générale que nous avons aperçu sur les gravures de tout à l'heure, mais il a donné à cette élévation un dynamisme plus prononcé, puisque c'est la façade principale, d'abord par l'ajout de colonnes plutôt que des pilastres, qui donnent plus de lumière et de force avec le jeu des ombres et de la lumière. Le grand fronton ici dédié à Paul V Borghese Pontifex Maximus, vous le voyez, romain, les armes du pape, l'attique qui se retourne avec le Christ et les apôtres, et bien sûr, il installe ce qui est décisif dans ces grandes basiliques, hein, dans les quatre basiliques majeures, Sainte-Marie, le Latran, Saint-Pierre et Saint-Paul hors les murs, la grande fenêtre des bénédictions où le pape apparaît lors des grandes occasions, c'est-à-dire pour son élection ici, et puis bien sûr pour la bénédiction Urbi et Orbi à Pâques. Et donc le motif central ici reprend un tout petit peu en mode mineur l'idée qu'avait eue Michel-Ange de souligner par des colonnes, mais ici elles sont, vous le voyez, presque adossées au mur, la partie centrale de la façade principale qui est devant vous. À l'intérieur, Maderno va tirer complètement l'architecture pour cette grande voûte de la nef, une grande voûte en plein cintre à petites lunettes, et puis progressivement ce décor de marbre qui va habiller les piliers, habiller les pilastres, habiller les plafonds, cette dorure qui va donner ce caractère fastueux à Saint-Pierre que nous connaissons. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. On vient de terminer l'architecture. En 1612, il aura fallu presque 100 ans, un peu plus de 100 ans, 106 ans, pour arriver à un bâtiment homogène, finalement de plan centré. Mais, ce n'est pas fini, car la deuxième grande campagne, c'est la campagne de décoration, et celle-ci, elle est confiée par un nouveau pape, un personnage très important, qui est Urbain VIII Barberini, Maffeo Barberini, qui est élu au trône de pierre en 1623 à la mort de Grégoire XV, et qui, lui, va choisir un jeune architecte qui a été protégé par la famille du pape précédent, par Scipione Borghese et le cardinal, c'est Bernin. Le jeune Bernin, fils de sculpteur, qui présente des dispositions et un talent extraordinaire, et qui se voit confier en 1624 un élément tout à fait majeur, qu'on veut dresser sur l'autel qui est posé lui-même sur la tombe de l'apôtre. C'est un baldaquin qui représente une sorte de grande monument en dur de ces baldaquins qu'on mettait dans les processions pour abriter le Saint-Sacrement, avec, vous le voyez, ces colonnes torses en bronze sur une structure en bois, ce bronze qu'on va prendre au Panthéon, où il restait des éléments de bronze antique que n'avaient pas détruits les barbares lors des invasions, ce qui vaudra le fameux distique très romain d'esprit, hein, « Quonon fecerunt barbari », Fecerunt barberini, ce que n'ont pas fait les barbares. Les barberini l'ont fait, arracher les productions de bronze qui restaient dans le pronaos du Panthéon, en partie d'ailleurs pour faire aussi des canons, hein, parce que Urbain VIII est encore un chef d'État qui entend défendre Rome en cas d'attaque. Alors voilà cet extraordinaire objet qui, à une échelle démesurée en apparence, mais qui, vous le voyez, dans l'espace, tient parfaitement avec cette espèce de splendeur. Ces fausses bordures de tissu avec ces pompons remplis d'abeilles au naturel qui sont l'incarnation des armes barberini. Hein. Regardez les abeilles qui sont ici disposées de manière héraldique, mais aussi il y en a au naturel qui butinent les feuilles et les fleurs de cet extraordinaire objet avec ce grand chapiteau composite, hein, qui fait écho en s'en démarquant au chapiteau corinthien, et puis ces angelots qui volent avec la tiare. Une sollicitation extraordinaire de l'esprit, très poétique. Cependant, ce serait trop peu dire, car si je reviens à cette photographie, en réalité, Bernin n'intervient pas qu'en ajoutant un élément. Il va modifier les quatre piles ici qui entourent son baldaquin, qui sont les piles énormes qui soutiennent la coupole. Ces piles, elles ont un défaut, elles sont très massives, et donc Bernin va travailler à les à leur donner un caractère plus léger. C'est pour ça qu'il va creuser ces piliers en mettant des niches et ensuite qu'il va disposer ici, dans une espèce de perspective accélérée, des éléments avec ce balcon qui donne une impression qu'il y a tout un ensemble à l'intérieur de la pile qui la rend donc moins sévère, moins massive. Dans ces quatre niches, il va placer des statues qui sont un peu hors d'échelle pour certaines et qui créent l'impression que les niches sont trop petites. Donc ça joue beaucoup sur l'œil du spectateur. Hein. Les échelles sont incroyablement différentes. Hein, et on voit bien à quel point, regardez la tête des gens, hein, on est dans des échelles incroyablement dilatées. Ça, c'est Saint-Longin, chaque pile abritant une relique, donc la lance, la vraie croix avec Sainte-Hélène, Saint-André, le frère de Pierre, crucifié sur une croix en X, qui a donné son terme architectural, la croix de Saint-André, évidemment. Et puis, Sainte Véronique avec le sphère, c'est-à-dire le visage du Christ sur ce linge. Tout cela, évidemment, ces statues géantes, hein, ici c'est du Quesnoy pour le Saint-André, Saint-Longin c'est Bernin lui-même. Eh bien, vous avez donc la manière comme ça d'occuper et de détourner l'attention de l'œil sur ces grosses piles monumentales. Bernin est ensuite, fort de ce succès, chargé d'édifier les fameux clochers qui attendent toujours, hein, depuis le début de cette histoire, et il propose des clochers un peu différents, un tout petit peu moins hauts. Voilà le dessin qu'on possède de la façade, hein, vous reconnaissez la façade que j'ai montrée, et les deux clochers qui doivent venir à droite et à gauche. Sur cette vue extraordinaire, une des plus belles vues d'Israël Sylvestre, qui a quitté la France, elle est à Cambridge, regardez, vous êtes... Le dessinateur s'est mis dans le lanternon exactement comme on le ferait aujourd'hui. Il a fait une photo plongeante. C'est un document d'une grande modernité. Vous apercevez le Vatican avec les belvédères, le Nichone, la villa du belvédère, la place. Et regardez, il y a un clocher là. Il est là. On a commencé par le clocher sud. Malheureusement pour Bernin, les fondations avaient été mal faites. Et au moment où il élève le dernier niveau, il y a des fissures monumentales. Et c'est l'échec de sa carrière. Il est obligé de démonter en catastrophe ce clocher. Il n'y aura jamais de clocher à Saint-Pierre de Rome. Après le règne d'Innocent X Pamphili, voilà un nouveau pape qui descend de Agostino Chigi, hein, Alexandre Chigi, Alexandre VII, qui va lui aussi trouver que Bernin est le plus grand architecte de son temps. Il avait été mis un peu de côté quand même, il y avait eu un moment de creux après l'histoire du clocher avec le pape précédent. Ces papes qui, vous savez, disaient « qu'est-ce qui restera de nous dans 1000 ans ?» On se souviendra qu'on a régné du temps de Bernin, hein, cette fameuse image littéraire, hein, du chef d'État qui s'incline par rapport à l'artiste. Hein. Alors Alexandre va commander à Bernin, au fond, l'achèvement de son système, au-delà du baldaquin, dans l'abside du chœur, eh bien, Bernin reçoit la commande de la chaire de Saint-Pierre. C'est l'image du triomphe de l'Église, l'Église de la contre-réforme, qui répond avec beaucoup de faste aux critiques, évidemment, que les protestants avaient formulées au XVIe siècle, donc des réponses sur le plan théologique. Oui, la Vierge est un personnage central, oui, les saints existent, oui, il y a la transsubstantiation dans l'hostie, mais il y a aussi évidemment une réponse artistique, le faste déployé pour séduire le croyant et le ramener vers l'Église. Et donc ici, ce qu'on appelle une gloire, Bernin va disposer autour d'un vitrail où il y a le Saint-Esprit, cette gloire dont les rayons en bois et en stuc doré conduisent la lumière, grâce à l'effet de la dorure, sur, par contraste, ce groupe noir avec ses pères de l'Église. L'Église a aussi toute la tradition des traités, des commentaires, des pères qui interviennent sur la vie de l'Église et la théologie, et ils ont l'air de tenir ici ce trône vide, la chaire de Saint-Pierre, qui est la justification ultime du pouvoir pontifical. Si le pape est supérieur aux autres évêques à l'intérieur de l'Église catholique et devrait aussi commander aux orthodoxes et aux protestants, c'est parce qu'il descend de Pierre et que c'est à Pierre que le Christ a donné les clés. C'est ça qui est contenu dans cette extraordinaire sculpture où Bernin et ses assistants vont réaliser ces grands pères de l'Église mitrés qui, en fait, ne touchent pas. Il leur doit s'arrêter quelques centimètres avant cette chair qui a l'air de flotter, comme par miracle, dans l'espace de ce nuage doré. Évidemment, ici, on voit la grande rhétorique qu'on appelle baroque, peut-être d'un mot qui est un peu forcé et qu'il vaudrait mieux ne plus utiliser, mais en tout cas, la grande rhétorique de séduction. Il faut imaginer que ces mouvements, même s'ils sont pétrifiés ou dans le bois, eh bien, ils s'agitent à cause de la musique, à cause de l'encens, à cause des chants qui s'élèvent, et tout ça se met à vibrer dans l'espace. Et quand on se met dans la nef, regardez comme Bernin a peut-être dès le début anticipé que grâce à l'écartement du baldaquin, qui ne repose que sur quatre grosses et monumentales colonnes, on voit très bien jusqu'au fond. Et dès que j'entre, dès la contrefaçade, je vois directement jusqu'au Saint-Esprit qui est au-dessus du trône de Pierre. Je suis dans la maison, dans l'église mère, avec la tombe de l'apôtre sous l'autel pontifical, et donc la justification de ce pouvoir est totale. Mais Bernin va surtout recevoir une commande extraordinaire, qui est la dernière commande pour Saint-Pierre, ou presque, la place au devant, qui est sur ce tableau, une place qui pour l'instant n'a que l'obélisque comme décor, et tout le reste, évidemment, composé de bâtiments différents, sans symétrie, sans régularité. Cette peinture vous montre ça, et naturellement, vous avez compris que le peintre a cru que les clochers seraient construits, mais c'est une anticipation, il n'y a pas de clocher, la peinture est fausse sur ce point. Alors, on avait réfléchi, en fait, depuis le début du siècle, qu'est-ce qu'on peut faire comme place? On avait pensé à une place en rectangle, avec l'obélisque au centre, avec des bâtiments sur colonne ici, à portique. On avait pensé à une place en trapèze. On avait pensé à un octogone. Ça, c'est un contemporain c'est un très très beau dessin au lavis de Carlo Rinaldi, qui propose, vous voyez, un octogone avec deux fontaines. Il reproduit la fontaine existante de l'autre côté. Ça, c'est une idée que Bernin va garder. Mais Bernin, lui, a une autre idée tout à fait extraordinaire. Et on connaît ce dessin très célèbre avec cette représentation de l'apôtre Pierre qui tend ses bras pour vous accueillir. L'Église vous attend et vous accueille. Elle ne vous enferme pas pour vous emprisonner, mais pour vous serrer contre son cœur. Et donc, cette métaphore des bras d'accueil, c'est bien sûr cette fameuse place ovale que Bernin va dessiner au devant de la façade de Maderno avec l'obélisque centré. Ça, c'est un premier projet. Vous voyez que il n'a pas encore trouvé tout à fait la bonne solution. L'ovale est dans le sens de la longueur, alors qu'il va finalement le disposer dans le sens de la largeur. Et finalement, surtout, il va avoir une idée de génie, ne pas construire, ne pas mettre d'édifice, comme chez Rinaldi, mais simplement une couronne de colonnes, quatre rangées de part et d'autre des deux bras, composant les deux bras plutôt, et simplement des colonnes posées sur le sol monumental, comme dans un forum antique. Il ressuscite là encore ce grand discours de l'architecture antique. Et ça donne évidemment ce très célèbre dispositif scénographique qui accueille le spectateur qui vient d'arriver du Borgo ici, qui débouche sur la place et qui est pris dans ses bras par l'Église, avec l'aiguille que matérialise l'obélisque de Saint-Pierre, du cirque de Néron et la grande façade pontificale derrière. Ici, le palais du pape. En réalité, la bonne idée qu'a eue, évidemment, le Bernin, c'est que le palais du pape étant sur le côté, l'ovale permettait d'avoir une place qui aille le plus possible vers la droite, même s'il y a sa symétrie vers la gauche, parce que la plupart du temps, les pèlerins, lorsqu'il n'y a pas la messe ici, se tiennent là à cause du pape qui peut apparaître à la fenêtre de son palais. Ce qu'on voit sur cette photo, vous voyez, le palais est ici, et voilà l'église, et les bras qui ne sont que des colonnades géantes qu'on peut tout à fait traverser. On n'est pas prisonnier, on entre et on sort, il y a une très grande fluidité, ce n'est pas comme un mur, ce n'est pas comme un édifice. La photo est prise depuis la façade, et vous apercevez surtout ce qui est merveilleux, ce peuple de saints, de martyrs, d'évêques, de papes, il y en a 140 qui vous regardent juchés sur la balustrade de la place, et qui sont nos médiateurs entre la terre et le ciel. Encore une fois, c'est une métaphore, évidemment, en même temps qu'ils nous regardent, plutôt que nous les regardons, qui et où, à quelle distance nous tenons-nous du ciel, de notre préparation à devenir évidemment des martyrs, au cas où, avec la foi. Les voilà, et regardez comment, plus je bouge, plus les colonnes bougent, puisqu'il y a quatre rangées, donc elles avancent, elles disparaissent, elles réapparaissent. On est dans un grand théâtre de pierre, et lorsqu'on se met à un point précis, les trois colonnades arrière disparaissent et on ne voit qu'une seule colonnade. Car Bernin, proche des jésuites, a bénéficié ici des calculs optiques et mathématiques pour donner cet effet de perspective incroyable. Une seule colonnade, alors qu'il y en a bien quatre, trois autres derrière. Ce chantier va lui permettre de se raccrocher à la façade et d'améliorer la réalisation des petits côtés qui aboutissent à la façade, et c'est là qu'il va avoir l'idée, en tirant parti d'une lumière haute, de montrer par cet extraordinaire cavalier qui surgit avec ce grand drapé qui a l'air de se soulever sous l'effet d'un vent qu'on ne ressent pas, Constantin, frappé au moment de la bataille du Ponte Milvius, quand il voit évidemment que la victoire est acquise parce qu'il a promis à Dieu de se convertir s'il gagnait. Regardez, il est devant la croix à droite et la main comme ça en signe de surprise et d'acceptation. On avait l'obélisque, on avait l'accueil des bras, et maintenant quand j'entre dans la loggia, je vois celui qui a fait de l'église l'église de l'État. Je tourne et là le pape se fait aménager fastueusement un escalier, la Scala Regia, l'escalier royal, mais avec une difficulté, l'espace est complètement contraint par les bâtiments qui existent déjà. Il y a déjà des bâtiments là et là, et donc le pauvre Bernin doit se tirer de là avec un escalier tout écrasé en trapèze. Eh bien il va faire un effet de perspective là encore tout à fait extraordinaire. Voilà un dessin très célèbre qui vous montre la manière dont il va travailler. Il va jouer en fait sur les colonnes, en les rapprochant progressivement des murs pour ne pas donner l'impression justement de cet entonnoir, et cette perspective débouche sur une grande baie qui tire. On passe devant le Constantin et en montant, je suis évidemment progressivement amené à monter vers les appartements. La dernière réalisation de Bernin, elle est un peu plus large dans le parcours du visiteur. Et vous voyez qu'on lui doit beaucoup, puisqu'on lui doit le baldaquin, la chaire, le Constantin, la place. Mais il va encore intervenir sur le pont que j'ai commencé par montrer, le fameux pont Saint-Ange, qui est à l'époque le seul pont pour gagner ce côté de Rome. Il n'y a pas d'autre solution. Il y avait deux ponts dans l'Antiquité, mais regardez, celui-ci est une ruine, on n'en voit plus que les piles. Donc tous les pèlerins passent automatiquement par le pont Saint-Ange. Il y a une petite place du pont devant. Il y a trois rues qui ont été aménagées pour essayer de fluidifier la circulation. Et il faut passer là. Et c'est là que Bernin va avoir l'idée de remplacer sur les dés de la balustrade ce qui avait dû exister dans l'Antiquité, des statues monumentales liées à Adrien, par des statues des anges portant les instruments de la Passion. Donc des anges, voilà, je vous ai mis celui à l'éponge imbibée de vinaigre, la colonne rappelant la flagellation du Christ, chacun tient un des instruments et prépare ainsi, en accueillant le pèlerin, prépare la méditation sur la mort du Christ qu'on va pouvoir conduire jusqu'à la basilique. Donc on est accueilli à nouveau par un peuple d'anges, ces anges qu'on ne voit pas mais qui sont matérialisés par le génie du sculpteur. Alors, au XVIIIe siècle, et j'ai presque fini, il ne se passe quasiment rien à Saint-Pierre. On fait pour chaque pape mort un tombeau, bien sûr, qui sont souvent des grandes réalisations de la sculpture romaine ou internationale, mais le décor est en place, l'édifice est en place. On ne changera pas, ça c'est un tableau de Panini qui vous montre au milieu du XVIIIe siècle, à l'époque du merveilleux pape des Lumières, archéologue et antiquaire Benoît XIV, l'église telle que vous la connaissez. Et sur cette peinture, là aussi de Panini, un décor qui peut sembler exactement ce qu'il y a aujourd'hui, le palais du pape, les deux bras de Bernin, l'obélisque et la basilique. Cependant, il y a une petite différence au niveau des anciens clochers. Regardez, la façade est toute droite. Mais si vous allez à Rome, vous n'aurez pas manqué de constater qu'il y a en fait des horloges. Et finalement, on a mis des cloches dans la partie inférieure ici, dans l'attique. Et ces réalisations de la fin du XVIIIe sont la dernière touche apportée par les papes à l'architecture de Saint-Pierre. Il s'agit en réalité ici de travaux de Valadier pour Piscis Braschi, le pape que nous avons déporté et qui est mort dans les prisons françaises sous la Révolution. Donc l'Église, commencée en 1506 par le rêve de Jules II, et grâce aux projections de Bramante, est ici maintenant complètement dans son état que vous connaissez après deux siècles et demi de travaux. Et il faut faire un grand saut dans le temps pour conclure cette histoire avec Achille Ratti, l'archevêque de Milan, élu au pontificat sous le nom de Pie XI. Pie XI, un pape connu pour son autoritarisme, mais qui va sortir le Vatican d'un enfermement politique. Vous le savez, le 20 septembre 1870, profitant du fait que Napoléon III avait besoin de ses troupes pour la tragique guerre contre la Prusse, eh bien, les troupes de Garibaldi, d'accord avec le roi Victor Emmanuel II, sont entrées dans Rome par la fameuse brèche de la Porta Pia, qui est aujourd'hui dans le jardin de la Villa Bonaparte, notre ambassade près du Saint-Siège. Et Rome, capitale des États pontificaux, devient Rome, capitale du royaume unifié d'Italie, ce que voulaient bien sûr tous les Italiens, ceux du Risorgimento, ceux de Garibaldi et ceux qui travaillaient avec le roi Victor Emmanuel II. La capitale Turin était devenue Florence, bien sûr, à terme, ça ne pouvait pas être une autre ville que Rome, la capitale de la nouvelle Italie. Et le pape s'enferme, c'est Pie IX, dans le Vatican. Il considère qu'on lui a volé sa ville, son dernier pouvoir temporel, et il boude dans le Vatican en attendant la résolution de ce qu'on appellera dans la politique italienne la question romaine. Le pape ne veut pas dépendre d'un État, il veut être chez lui. Il avait toujours été depuis le Moyen-Âge, depuis les grandes donations à Sylvestre de Constantin. Et donc, voilà que le pape ne sort plus, ne collabore plus avec ce régime, qui est évidemment un royaume catholique. Les rapports entre les rois de la maison de Savoie et la papauté sont détestables jusqu'à ce que la question romaine soit résolue. Pie XI va opérer avec Victor Emmanuel III les fameux accords du Latran, qui sont signés ici par celui qui porte modestement un habit civil et le titre de président du Conseil des ministres, c'est Benito Mussolini, et le redoutable cardinal Gaspari, le secrétaire d'État du pape, qui est à ce moment-là donc un grand entouré de grands diplomates. Donc ça y est, le pape est chez lui, on crée un micro-État le plus petit du monde qui correspond exactement au Vatican, la place, l'église, les jardins, la muraille, c'est l'État de la cité du Vatican. Et quand vous entrez dans l'église du Vatican, vous n'êtes pas en Italie, vous êtes dans la cité du Vatican. Comme Gaspari est malin, il va négocier toutes sortes de miettes dans la ville. À chaque fois que vous allez dans une basilique majeure, vous n'êtes plus en Italie, mais toujours au Vatican. Et le Vatican possède comme ça dans Rome un certain nombre d'enclaves extraterritoriales. Alors, la conséquence directe sur l'architecture du Vatican, c'est d'abord Radio Vatican. L'État a besoin de communiquer et le pape, pour la première fois, va s'adresser au monde par la voie de la radio qui est installée sur cette tour et qui fonctionne toujours depuis 1930. Voilà la préparation de la première allocution pontificale par la radio. Le Vatican s'ouvre aux médias et ce n'est plus seulement la nécessité d'aller qui permet de voir le pape, on peut l'entendre. Ici, vous reconnaissez bien sûr son cardinal le plus proche et qui est Pacelli, le futur Pie XII. La conséquence aussi, bien sûr, c'est que le pape, maintenant, fait bonne figure à ceux qui viennent le voir aussi pour des raisons non plus seulement religieuses, mais artistiques. Et on va complètement repenser l'entrée du musée du Vatican. C'est à ce moment-là qu'apparaissent la porte devant laquelle tant de gens ont souffert des heures avant de pouvoir entrer, la porte des musées du Vatican, qui sont aujourd'hui complètement à saturation touristique, avec la figure de Michel-Ange, le sculpteur, et de Raphaël, le peintre, autour des armes de Pie XI, Achille Ratti. Et puis le célèbre escalier. Le célèbre escalier qui aujourd'hui n'est plus que l'escalier de sortie, mais qui avait été pensé pour être entrée et sortie, car c'était un escalier à double révolution. On monte et on descend sans se croiser, comme à Chambord. Un vieux rêve aussi sur la réflexion des escaliers à la Renaissance, dont Léonard avait également été un des acteurs. Escalier qu'on doit à l'architecte Giuseppe Momo. La dernière opération, mais elle n'est pas tout à fait sans importance pour ma démonstration, c'est que, puisque le pape ne boude plus, puisque Saint-Pierre n'est plus seulement cette basilique, mais maintenant un État, il faut relier l'État à l'Italie et montrer que cette réconciliation politique, elle a aussi un sens dans l'espace. Aussi, on va intervenir sur la partie en bas ici de ma photographie aérienne, qui est le Borgo. Le Borgo, c'est le nom qu'on donne à tout ce quartier qui séparait le château Saint-Ange, qui serait ici, de la place Saint-Pierre, et dans lequel les pèlerins cheminaient avant de voir surgir la basilique d'un coup d'un seul. Et ce quartier était structuré autour de deux rues, une ici Borgo Nuovo, percée par Alexandre VI Borgia, et ici Borgo Vecchio, et des maisons se trouvaient entre les deux rues, dessinant des espaces intermédiaires, comme cette place ici, ou la place Sasso Cavalli. Eh bien, on va détruire tout cet espace entre les deux rues, et ce projet est confié à un architecte qui n'est pas l'architecte du pape. Là, c'est l'architecte de l'État italien. C'est l'architecte de Mussolini, Marcello Piacentini, que vous avez ici dans son atelier, un des derniers très grands maîtres de l'architecture italienne, le fils déjà d'un architecte établi, Pio Piacentini, et l'oncle d'un des grands architectes italiens qui vient de mourir en 2010. Piacentini a dans sa main, dans son œil, cette capacité de créer à l'échelle de Rome, cette échelle antique que chaque génération s'est transmise par la fréquentation même des ruines depuis la chute de Rome. Et donc, on va démolir cette spina, cette épine au milieu des deux rues, vous apercevez la basilique au fond, et on va créer, en conservant les deux côtés des rues qui ont été sauvés, une opération qui est très archéologique aussi, on va obtenir cette via della conciliazione, voie de la réconciliation, avec les anciennes rues de part et d'autre qui ont gardé leurs vieux édifices, et au centre, pour redresser les défauts de parallélisme, cette idée extraordinaire d'avoir mis des grands lampadaires obélisques, des obélisques lampadophores qui préparent à l'arrivée de l'obélisque de Saint-Pierre, qui sont au nombre de 14, comme il y a 14 stations dans le chemin de croix. Personne n'a jamais remarqué ça, c'est tout à fait stupéfiant, et qui permet pour le jubilé de 1950, que Pie XII a voulu, après-guerre, qui permet de mettre le Vatican à l'échelle du monde nouveau, puisque maintenant, ça y est, on arrive en avion, on arrive en train de partout, et les volumes de pèlerins comme les volumes de touristes ne vont cesser d'augmenter. Cette voie qui est aujourd'hui devant vous, tant critiquée après-guerre et aujourd'hui regardée avec plus de douceur par les archéologues et les historiens, elle est évidemment indispensable au fonctionnement de la grande machine catholique. J'ajouterais, pour l'avoir vu de mes yeux vus, que c'est dans cette rue, au moment des solennités liées au décès de Jean-Paul II, qu'il y a eu 3 millions de gens, vous le savez, à Rome, pour rendre hommage à ce pape qui avait fait le tour du monde. Eh bien, il y avait des gens qui ont dormi dans cette avenue, depuis la place Saint-Pierre jusqu'au château Saint-Ange, dans des sacs de couchage par terre alignés. Et vous le savez, c'était un moment très important et très étonnant. Il n'y a pas eu de blessés, ça a été un moment de grâce. Et on a vu là aussi la via de la conciliation dans un usage que personne ne lui avait imaginé au moment de sa création. Et quand on est dans le haut de la basilique, vous voyez donc qu'elle vient se compléter complètement. Le château Saint-Ange avec le pont primitif, la via della conciliazione, la place Pie XII et la place Saint-Pierre ici avec la façade monumentale. Alors je viens de prononcer son nom. Eugenio Pacelli succède à Pie XI en 1939. Le voilà le jour de son couronnement, une photographie couleur à l'époque où il est encore entouré des plumes monumental d'autruche, le grand fauteuil qu'on porte à bout de bras. Et ce n'est pas un architecte que j'ai mis à côté de lui, car il n'y a plus de grands travaux. C'est une femme, Margherita Guarducci, qui est une archéologue. C'est elle qui va recevoir du pape la mission en 1940 de faire des fouilles dans Saint-Pierre. Parce que Pie XII est un pape très scientifique, il croit tout à fait à la science, il n'a pas peur, sa foi est telle qu'il n'a pas peur de la science, et donc il va ordonner des fouilles archéologiques pour savoir si, oui ou non, il y a bien une tombe qu'on peut considérer comme la tombe de l'apôtre Pierre. Et Margherita Guardacci va faire ses fouilles. Elle a raconté dans des carnets ses entretiens avec le pape, son excitation intellectuelle à voir progresser les fouilles, à déchiffrer les inscriptions. Elle dit qu'il n'était pas du tout formé à l'épigraphie, mais qu'il se passionnait et que c'était un élève très brillant. On sait que Pacelli était un personnage très intellectuellement développé, celui que De Gaulle appelait le dernier souverain, et on le voit bien sur cette photographie. Et c'est comme ça qu'on va découvrir dans les grottes vaticanes tout le cheminement archéologique ici restitué par un dessin moderne, avec ce fameux monument sur ce mur rouge qui a été considéré, dans l'instant, c'est à 90 ou 15% avec certitude, comme étant bien la tombe d'une personne exceptionnelle qu'on a voulu isoler et honorer très tôt. Donc, sans doute, la tradition ici coïncide-t-elle archéologiquement avec une réalité. Et on revient au début de l'histoire, la basilique est bien fondée sur la tombe de l'apôtre, justifiant tout le pouvoir que les papes ont mis dans l'exercice de leur fonction de chef de l'Église, mais aussi de maître d'ouvrage à la recherche de la plus belle architecture d'une Église qui soit dans la chrétienté. Je vous remercie.